7 milliards de voisins, avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines sur RFI. Comme chaque vendredi, nous parlons d'éducation et aujourd'hui, la revanche des littéraires est-elle vraiment possible? Comment en effet se faire une place sur le marché de l'emploi quand on est diplômé de philosophie plutôt que de marketing? Ce mois-ci, en tout cas, démarre en France l'opération Phoenix, 7e édition, qui permet de mettre en relation de grandes entreprises partenaires et des diplômés de filières littéraires triés sur le volet. En Grande-Bretagne, depuis longtemps, on trouve dans les salles des marchés des traders qui ont, par exemple, étudié l'histoire de l'art. Mais dans le fond, que peuvent apporter des férus de littérature médiévale à une banque? Valeur ajoutée ou bien gadget pour redonner un peu d'espoir aux disqualifiés du business? Bref, vous avez la parole sur la revanche des littéraires dans votre pays. Que vous soyez étudiant, professeur, si vous êtes évidemment directeur des ressources humaines, dites-nous quelle est votre réaction lorsque vous recevez une candidature littéraire. Vous chaussez vos lunettes ou bien direct à la poubelle. Vos témoignages nous intéressent. Vous nous appelez dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. Quelques petits messages sur Facebook. Moustapha nous écrit de Kolda au Sénégal. Les gens pensent que les matières littéraires sont plus faciles que les scientifiques, mais moi je pense le contraire parce que les matières littéraires sont aléatoires et les scientifiques sont exactes. Mostley à Libreville au Gabon. Les littéraires sont les plus nombreux au Gabon. La plus grande et la première université gabonaise, l'université Omar Bongo, est le sanctuaire des littéraires. Il est vrai que les filières scientifiques trouvent de l'estime auprès des familles. Les littéraires ne sont pas pour autant marginalisés. Cependant, ils sont désormais obligés de suivre deux formations afin de sortir de l'université avec un diplôme professionnel. Certains vont à l'école normale supérieure, à l'Institut des sciences de gestion, à l'Académie américano-française de management ou dans d'autres instituts de formation, donc privés, capables de leur permettre d'intégrer plus facilement ensuite le marché de l'emploi. Voilà un exemple. Ismaël à Lomé au Togo, les séries littéraires sont sous-estimées parce que le gouvernement ne donne des bourses d'études qu'aux scientifiques. Bon, et c'est ce qui pousse les professeurs de lycée à n'aimer que les séries C et D, c'est-à-dire l'équivalent de la série S chez nous. Appelez-nous maintenant les voisins et les voisines pour nous faire part de ce que vous vivez chez vous en termes d'ostracisme ou pas, en fonction de la filière dont vous êtes originaire, littéraire, scientifique. 33 1 84 22 71 71. Bernard Desforges et Pierre-Henri Tavoyot, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Bernard Desforges, vous êtes ancien professeur de littérature grecque ancienne, coordinateur de l'opération Phoenix. Aujourd'hui, vous êtes complètement reconverti, consultant pour le cabinet d'audit PricewaterhouseCoopers. Donc, c'est un changement de vie radical. Et Pierre-Henri Tavoyot, vous êtes toujours professeur de philosophie à l'université Paris 4 Sorbonne, ô combien célèbre dans le monde.
Absolument.
Alors, tous les deux, donc, vous travaillez à cette opération Phoenix qui a vu le jour maintenant, voilà plusieurs années, en 2007. C'est une opération qui est née avant la déflagration de 2008. Quelle était l'idée au départ de Phoenix? Qui veut répondre? Pierre-Henri Tavoyot?
Bernard Desforges, qui est l'initiateur quand même de cette...
Enfin l'initiateur, et c'est vrai que dès le départ, on a très vite travaillé avec la Paris-Sorbonne, et donc Pierre-Henri Tavoyot est un soutien de cette opération depuis l'origine. Mais c'est vrai qu'elle a été conçue de façon tout à fait facile à expliquer, c'est-à-dire qu'elle est partie d'une décision du président de PricewaterhouseCoopers, avec qui je travaille, qui a été d'ouvrir les recrutements dans notre cabinet, qui sont des recrutements qui sont pour l'essentiel fait dans les écoles de commerce, de l'ouvrir à d'autres filières, et particulièrement aux filières littéraires, dans la mesure où il y avait le sentiment que nous étions dans un système beaucoup trop de clonage, si vous voulez, d'avoir toujours le même type de profil sortant des écoles de commerce.
Donc de tourner en rond, finalement.
D'avoir le risque de ne pas être inventif, finalement, et que la diversité, c'est un sujet très à la mode chez nous, un mot très à la mode, en tout cas, et que la diversité n'est pas seulement la diversité d'origine ethnique, sociale, etc., homme-femme, même. Bon, il n'y en a que deux de possibilités, mais sinon, cette diversité, il y avait aussi la diversité des formations. Et la diversité des formations, c'est essentiel pour que les équipes fonctionnent bien, et dans des sociétés de conseil, dans le domaine intellectuel en particulier, c'était évident. Donc on a décidé de faire quelque chose pour créer cette diversité. Alors bien sûr, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure au début de l'émission, nous avions l'exemple de ce qui se passe en Angleterre, ou justement dans les cabinets comme les nôtres et chez nos amis donc anglais, cela se pratique tout à fait couramment. Et donc quand on leur explique qu'en France, il faut faire quelque chose de spécial, ils nous regardent avec des grands yeux, parce que ça...
Mais comment on a le niveau en maths pour travailler dans une salle des marchés en ayant étudié l'histoire de l'art tout
non,
de même
Non, mais je pense qu'il ne faut pas poser la question comme ça. Là, on entre tout de suite dans le fond du sujet.
Là, je vous pose la question ethnocentriquement,
c'est-à-dire... Voilà, parce que vous allez dire comment, par exemple, je vais moi-même faire du narcissisme, si je puis dire, puisque vous avez dit, en fait, je suis associé du cabinet PricewaterhouseCoopers, et je suis associé depuis fort longtemps. Je ne me suis pas reconverti. J'étais professeur de littérature grecque, et j'étais parallèlement
double
associé.
Vie. Ouais.
Voilà. Donc, je ne dis pas que c'est toujours faisable, mais je vais dire, j'ai parfaitement vécu ce qu'est la capacité que nous donnent nos formations, qui sont des formations très solides, et contrairement à ce qu'a dit un auditeur au début, qui a dit que il y avait l'exactitude du côté scientifique et la facilité, enfin l'aléatoire, il a dit ce qu'il n'est pas sûr, l'aléatoire, mais l'aléatoire existe partout, y compris dans la physique quantique, donc de toute façon elle est partout. Mais l'exactitude, les disciplines littéraires sont des disciplines parfaitement... Donc on apprend des méthodes. C'est ça, on apprend des méthodes, apprend. Et à partir de là, on ne va pas dire qu'on sort immédiatement d'une spécialité, comme dans mon cas, sur la tragédie grecque, et puis ensuite, qu'immédiatement, on est bon en finance.
Mais quand même, à la base, donc, en France, il y a un problème, Pierre-Henri Tavoyot, vos étudiants qui étudient la philosophie ont un problème pour se caser ensuite sur le marché du travail s'ils ne se destinent pas à l'enseignement.
Non, en fait, pas. Il y a peu de problèmes. Nos étudiants de la Sorbonne en philosophie se placent. Ils se placent simplement avec un peu de retard après leur diplôme. Donc on les trouve, le taux de placement de master est excellent. Alors évidemment, il y a de l'échec, mais une fois qu'on passe, non, je vous garantis, le taux de placement des masters, et on a des enquêtes maintenant qui sont très très précises sur le devenir des étudiants, avec un master de philosophie de la Sorbonne, vous trouvez un poste assez rapidement, et pas du tout en philosophie.
Comme cadre dans une entreprise.
Comme cadre dans une entreprise.
Privé,
le cas échéant. Et moi, à mon expérience, je suis professeur de philosophie, mais j'interviens énormément en entreprise. À ma grande surprise, au début, je rencontrais des gens qui me disaient « Ah, nous sommes très contents de vous voir. » Moi-même, j'ai fait des études de philosophie et j'étais face à un directeur de ressources humaines, à un grand banquier, à un chef d'entreprise. Alors je me disais, c'est quand même étrange parce que ça arrive tout de même. Simplement, ce qui se passe, c'est qu'on ne le sait pas et que la transition est longue et difficile. Voilà. Et moi, en tant, j'étais à l'époque directeur adjoint de l'UFR de philosophie, et j'avais un problème pour accueillir les étudiants de première année. Parce que beaucoup me disaient, voilà, on fait des études de philosophie par passion. Mais qu'est-ce qu'il a fallu lutter, à l'égard de notre famille pour pouvoir faire ces études? Parce qu'on me dit, mais philosophe, c'est pas un métier. Et je disais, en effet, vos parents ont raison. Philosophe, ce n'est pas un métier. On peut devenir professeur de philosophie, mais pas philosophe. Et donc, il me dit, mais alors, qu'est-ce que leur dire? Eh bien, voilà. Moi, je vais vous dire vous avez une très bonne formation. Vous savez parler, vous savez écrire, vous savez penser. Vous êtes confronté à ce que la littérature mondiale a fait de plus complexe depuis le début de l'histoire de l'humanité. Si vous avez lu Hegel et Fichte, c'est bon, vous êtes blindé, rien ne pourra vous échapper. Donc vous êtes confronté à ce qu'il y a de plus complexe. Tout ça, ce sont des véritables compétences. Nous sommes dans un monde qui change. Si vous apprenez des compétences techniques, elles vont être obsolètes très rapidement. Si en revanche vous avez un socle de culture générale, de formation générale et de formation spécialisée, ça ne vieillit pas. Ça ne vieillit pas et ça vous permet au contraire d'être beaucoup plus adaptable dans un contexte changeant. Voilà l'idée.
Alors le principe de Phoenix, c'est de faire se rencontrer des diplômés des filières littéraires, en général d'université d'ailleurs, avec des grandes entreprises partenaires de l'opération Phoenix. Et puis ensuite, une fois qu'elles sont recrutées, donc quand même très triées sur le volet, ça veut dire des étudiants qui ont réussi brillamment à l'université, ensuite ils ont quand même une formation supplémentaire pendant quasiment une année scolaire.
Alors, voilà, mais précisons bien les choses. Effectivement, ce n'est pas seulement de mettre en contact, parce que ça serait très facile. En fait, on a voulu, puisqu'en France, cette idée n'a pas cours de façon évidente, il a fallu construire quelque chose, une sorte de laboratoire, comme j'ai dit à ce moment-là, qui permette de montrer que c'était faisable et que ce n'était pas faisable seulement accidentellement à travers une personnalité par-ci, une personnalité par-là. Là, je rejoins ce que dit Pierre-Henri Tavoyau. Partout où nous passons, nous découvrons des gens qui nous disent « Ah bah oui, mais moi, je suis philosophe. » J'avais rencontré, je me souviens, dans un débat, une responsable de la RATP qui me disait « Mais moi, je suis philosophe, mais... »
Depuis 2007, vous avez casé quel genre de profil, genre de métier, quel genre de mariage atypique avez-vous réalisé?
Écoutez, là, on peut prendre philosophe, on peut prendre l'histoire de l'art, on peut prendre, puisqu'on a aussi les STAPS, puisque ça fait partie des sciences humaines, la littérature.
Les gens qui se destinaient au sport,
et qui, à ce moment-là, entrent, disons, dans les types de métiers, quand on voit à peu près les types de postes qui ont été attribués, puisqu'il y a eu 160 jeunes jusqu'ici qui, par Phoenix, ont trouvé leur place. Alors, ce sont soit des postes d'auditeurs dans une société comme la nôtre, comme PwC, où c'est des auditeurs juniors ou des consultants juniors, mais aussi des auditeurs internes dans des sociétés comme chez Renault, par exemple, des responsables dans des banques, soit en front office, soit en back office, chez HSBC, à la Société Générale.
Alors là, pendant l'année supplémentaire de formation, un peu de maths
Ne disons pas année supplémentaire de formation, parce que à ce moment-là, ça donne l'impression
remise
que le littéraire... Ils sont recrutés. Donc, si vous voulez, une fois qu'ils sont candidats, ils ont leur Master 2, ils sont recrutés par les entreprises qui les ont sélectionnés, bien entendu, au vu des CV, des lettres de motivation. Et une fois qu'ils sont recrutés, ils sont donc salariés, à ce moment-là, à un niveau de salaire en CDI. Et là, ils passent en alternance, c'est l'expression. Oui. Et à ce moment-là, leur entreprise les met en alternance pendant une petite année.
Et on apprend les codes de l'entreprise.
Et là, on apprend les codes de l'entreprise.
Mais l'audit, c'est un métier tout de même chez vous.
Alors, ils apprennent les codes de l'entreprise, ils apprennent les grands métiers de l'entreprise, tous ensemble.
Culture générale de l'entreprise.
C'est ça alors à ce moment-là, Pierre-Henri Tavoyau me relayera, puisque c'est aujourd'hui, nous faisons cela en liaison avec l'Institut de formation de la Sorbonne, qui assure cette formation. Donc ils sont une partie du temps dans l'entreprise, une partie du temps dans cette formation, mais qui reste encore généralisante.
Et ensuite, on est opérationnel
dans son
junior,
métier.
Junior dans l'audit, par exemple.
Dans l'audit. Et là, évidemment,
ou a priori, on manie pas mal de chiffres.
Mais de toute façon, quand ils arrivent dans l'audit comme chez nous, sortant de cette formation généralisante assez intense, ils sont à peu près, vous savez, à peu près au niveau des jeunes qui sont des écoles de commerce. Et les jeunes qui sont des écoles de commerce, à ce moment-là, ils ont aussi cette formation complémentaire qu'on leur donne.
Alors, dites-nous, les voisins et les voisines, si vous nous écoutez, quelle est chez vous la revanche possible des littéraires pour l'insertion professionnelle? 33 1 84 22 71 71.
Mon pack sac et mes instrus, je m'en vais vers un monde où je serai bien reçu. Je veux plus cet univers sale, quitte à ce que je finisse seul. Je vois déjà qu'il y en a qui s'installent dans leur cercueil. On est tous perdus, maintenant y'a plus de place pour la vertu. Je veux changer le béton pour de la verdure. Que l'Italie offre la vérité, même si le peuple est irrité. Je parle toujours du cœur, même si je suis critiqué. Si t'es down, marche avec moi, laisse tes drames derrière toi. Ici y'a pas de rabat-joie. Marche avec moi.
Dirty Gravitas chez 7 milliards de voisins. Si le soleil ne brille plus, certains le pensent. Pour les gens qui sont originaires des filières des littéraires, des universités, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71, quel que soit votre point de vue sur l'avenir des littéraires dans les entreprises. Nous sommes en ligne avec Clément qui nous appelle d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Bonjour Clément.
Bonjour les voisines et les voisins. Moi, je fais une maîtrise en anglais à l'université de Cocody. Et chaque fois que je me présente dans une entreprise pour chercher un emploi, on me dit tout simplement, monsieur, bon, vraiment, c'est vrai que vous avez fait une maîtrise en anglais, vous êtes bien anglais, mais monsieur, s'il vous plaît, ayez un autre diplôme professionnel. Si vous avez ce diplôme professionnel, ça pouvait vraiment vous aider parce que à l'heure là, nous, on a besoin d'un homme en marketing, ou bien en gestion, ou bien en finance comptable. Mais les matières littéraires, vraiment, c'est pas notre affaire. Et des fois, il m'arrive de me poser la question, mais pourquoi à l'université de Cocody, on nous forme en anglais et dans les autres matières littéraires? Puisque ça ne nous servira à rien. Il faut maintenant déboucher de l'argent pour aller faire peut-être un master 2 en marketing ou un business
Votre master en anglais, Clément, vous l'avez eu avec une mention, vous l'avez eu brillamment, avec des bonnes notes ou pas?
Oui, je l'ai eu très brillamment, parce que j'étais parmi les premiers de ma promotion. Et là, et quand quand des fois je me trouve devant les chefs d'entreprise en anglais, me demande si c'est à Cocody, si je fais l'anglais. Je leur dis oui, j'ai fait tout mon fichier scolaire en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais sorti de la Côte d'Ivoire.
Ah oui, donc ils sont étonnés parce que votre niveau d'anglais est très bon, donc.
Très, très bon. Même j'ai eu un contrat comme ça avec un groupe de cacao en Côte d'Ivoire, avec un chocolatier américain. J'ai interprété très brillamment. Et ils m'ont salué, ils m'ont applaudi.
Et puis ensuite, au revoir.
Après, le monsieur m'a dit, monsieur, vous avez quel diplôme? Je lui ai dit, non, j'ai une maîtrise en anglais. Il dit, mais à quoi ça, vous n'avez pas autre chose? J'ai dit non, que c'est une maîtrise en anglais.
Ouais, écoutez, votre témoignage est intéressant parce que vous êtes des milliers dans ce cas-là. Alors, que peut-on répondre à Clément? Parce qu'il y a des étudiants aussi en France qui se sont inscrits dans des filières de langue. Donc, des filières où ils ont étudié la littérature anglaise du 19e siècle, par exemple.
Il faut là-dessus être vraiment lucide quand on commence des études. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'en tout cas, dans l'espace public français, les choses ont un peu changé. On entre dans des études, souvent par passion. Il faut aussi avoir en tête le type de médiation qu'on aura avec la vie professionnelle. Pour des philosophes, par exemple, c'est particulièrement notable, parce que franchement, la philosophie paraît encore plus éloignée que l'anglais des réalités. Donc nous, on a très concrètement un problème, c'est de dire aux étudiants de philo, venez chez nous. Et sans trop de risques. Donc, l'idée, c'est de dire quoi ? On vous accueille, on vous donne une très bonne formation générale. Pendant l'année de licence, les 3 premières années, on va vous donner quelques jalons pour que vous réfléchissiez à votre devenir professionnel. Pour ça, il y a des modules. Arrivé au niveau du master, il y a des possibilités de faire des stages et d'intégrer les stages professionnels que vous faites, un autre jalon un peu plus important, au sein du cursus. Et puis, troisième idée, on peut ajouter des modules. C'est-à-dire, vous faites un travail en histoire de la philosophie, en phénoménologie, mais vous pouvez faire un petit module de professionnalisation que vous pouvez inscrire dans votre CD. Et puis, quatrième idée, vous faites votre master. Une fois que vous avez fait votre master, vous pouvez en effet vous lancer dans un autre master. Donc là, master recherche, après un autre master professionnalisant. Donc ça commence à coûter cher pour des études. Ou alors, vous vous lancez dans l'opération Phoenix. Voilà, c'est ça l'idée. Vous avez plusieurs cursus. L'opération Phoenix, ça concerne peu d'étudiants, vous l'avez dit. Mais en même temps, ça irradie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup peu d'étudiants qui sont
reçus.
Vous voulez
dire qu'on peut éventuellement faire changer les mentalités au bout de 10 ans, 15 ans?
C'est déjà le cas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'étudiants qui participent au processus de formation. Et l'Université Paris-Sorbonne offre un accompagnement, un coaching très efficace des étudiants. Donc même ceux qui ne sont pas pris en poste sont entraînés à la recherche d'emploi.
Alors vous restez avec nous tous les deux, Pierre-Henri Tavoyot et Bernard Desforges. Nous serons ainsi en ligne tout à l'heure, après le flash, avec un recruteur de L'Oréal. La revanche des littéraire, quelle réalité chez vous, utopie ou vraie richesse pour les entreprises? Vous avez la parole, les voisins et les voisines, au 33 1 84 22 71 71. Retour dans 3 minutes, deuxième partie de 7 milliards de voisins. Restez avec nous.